Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Alors nous sommes avec le docteur Raoul Belzo. Bonjour docteur Belzo.
Bonjour.
Voilà, donc vous allez intervenir dans le cadre de la semaine du cerveau. Pour vous présenter, on peut dire vous êtes enseignant et puis praticien hospitalier, comme on dit, en psychiatrie. Et vous allez parler des neurosciences, comment elles ont changé la psychiatrie. Alors, pour vous présenter, je rajouterai, on vous connaît un petit peu, puisque vous êtes les lauréats du prix Marcel Dassault pour la recherche sur les maladies mentales en 2022, c'est bien ça?
Oui.
Pour vos travaux sur les tests de diagnostic de la bipolarité. Voilà. En quoi les neurosciences ont changé la psychiatrie? Je reprends l'intitulé de votre intervention.
Alors, c'est une question qui est difficile, hein, et c'est pour ça que c'est un objet intéressant pour une conférence, un débat et des échanges, parce que, en fait, si vous voulez, ça pose un certain nombre de questions dans différents registres. Peut-être que la première chose, c'est de parler de la psychiatrie et de situer la psychiatrie et pourquoi, finalement... On se pose cette question alors que vous verrez pas de débat sur en quoi la physiologie a impacté la cardiologie ou la pneumologie, par exemple.
Oui, oui.
Et un des points importants, c'est quoi le statut de la psychiatrie? Qu'est-ce que c'est les troubles psychiatriques? Qu'est-ce que c'est que la psychiatrie? Alors la psychiatrie, c'est une discipline médicale, comme la cardiologie, la pneumologie et d'autres disciplines, qui s'intéressent au diagnostic, au traitement et à la prévention de ce qu'on appelle les maladies mentales. Et là, on voit tout de suite, quand on parle de ça, qu'on a une petite difficulté, parce que on est capable de définir assez facilement qu'est-ce que peut être une maladie mentale, comme la dépression, la bipolarité ou autre, mais tout de suite on est pris dans le psychisme, le psychologique et puis le physique, quoi, hein, tout ce qui va être plutôt biologique, organique, et donc on voit, et d'ailleurs l'histoire de notre discipline, elle est traversée par cette question de dualisme, de la vie psychique d'un côté, les théories psychodynamiques ou psychologiques de la vie mentale et de ses pathologies d'un côté, et puis de l'autre, le cerveau, le fonctionnement cérébral et les dysfonctionnements cérébraux qui pourraient aussi être pourvoyeurs de symptômes et de maladies. Mmh. Et donc, en fait, pourquoi on se pose la question de l'impact des neurosciences sur la psychiatrie? Déjà parce que la discipline médicale qui est la psychiatrie, elle est traversée par une ambiguïté, hein, entre les causes psychiques et les causes, on va dire, organiques, neurologiques, etc. Et ça, c'est un point qui est important à aborder, parce que ce clivage-là, qui à un moment donné était très, très prégnant, hein, dans les sciences sociales et la psychologie, aujourd'hui, on pourrait s'intriguer, hein, parce qu'on ne peut pas imaginer avoir une pensée, par exemple, ou un rêve, sans avoir un cerveau qui fonctionne derrière. Il y a un lien qui est un peu indéfectible, et là où les neurosciences, elles nous aident à penser les choses, c'est elles nous aident à nous rappeler que on n'a pas de vie psychique sans cerveau. Et un psychiatre de la région du XXe siècle qui s'appelait Henriet disait il y a pas de psychiatrie anencéphale, hein, si vous n'avez pas de cerveau, vous ne pouvez pas avoir de troubles psychiatriques et vous ne pouvez pas avoir de vie psychique. Mais on est toujours pris dans ce dualisme et la tentation qui paraît absurde, hein, comme ça, mais qui est bien réelle, on le voit dans les débats actuels, par exemple sur la prise en charge de l'autisme, la tentation d'opposer vie psychique, psychothérapie, théorie psychologique et neurobiologie, fonctionnement du cerveau. Et ben quand ça se radicalise, on est dans des paradigmes qui n'arrivent pas à rendre compte de ce que sont les maladies mentales. Donc peut-être qu'un des premiers points, c'est de dire les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du système nerveux, hein, et en particulier l'étude du cerveau. Elles peuvent nous aider à comprendre les mécanismes normaux et pathologiques du fonctionnement cérébral, et on a besoin de comprendre ça pour essayer de mieux comprendre certains processus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est plutôt en termes de compréhension et de résultats. Parce que si on est honnête, c'est vrai que on voit que la psychiatrie, elle est traversée par beaucoup, beaucoup de résultats scientifiques dont on fait parfois grande publicité hein, dans les médias nationaux, internationaux, de telle ou telle découverte. Et on voit d'ailleurs que il y a eu une période où c'était la génétique, hein, et où on parlait beaucoup de la génétique associée à ceci ou cela ou telle pathologie. Maintenant, on va parler des aires cérébrales ou des fonctionnements cérébraux associés à tel ou tel processus pathologique. Et pour autant, on a l'impression que, y a peu d'impact de ces découvertes sur les soins, sur le pronostic et le diagnostic des maladies. Et donc, il y a un phénomène un peu de déception qui s'organise, qui est alimenté par une tension entre les effets d'annonce et les résultats propres. C'est-à-dire, quand vous êtes une personne concernée, et que vous entendez ça, vous dites oui, mais alors pourquoi moi je galère tout autant à avoir des soins de qualité, à ce que ma dépression s'améliore, pourquoi moi j'ai eu 10 ans de retard diagnostique pour mon trouble bipolaire, etc. Et ça, c'est une réalité qu'il faut qu'on prenne vraiment en compte, qu'on soit chercheur ou qu'on soit clinicien, parce que bah, le rapport entre la société et la science fait que bah, parfois il y a une distorsion entre les effets réels et les effets supposés. Et ça, bon, on est un peu tous responsable, hein. C'est-à-dire que je pense que les gens qui produisent le savoir, les scientifiques, doivent être très très vigilants à leur propre biais, hein, la nécessité de publier des résultats intéressants, de communiquer. Il y a évidemment les journaux scientifiques, hein, qui doivent avoir une éthique très très rigoureuse sur leur communication. Et puis après, il y a d'autres sphères, hein, sociales, il y a les journalistes scientifiques. Et je pense que c'est un peu l'objet d'ailleurs de la réunion de mercredi, hein, en me disant, bah, finalement, il y a une nécessité d'être vigilant sur la communication, parce que, oui, effectivement, si le journaliste, il dérive un petit peu dans son propos, il va surinterpréter les données que lui fournit le scientifique, bah, après, il délivre au grand public un message qui peut être erroné. Et puis après, il y a les effets sociétaux des attentes. Quand les attentes sont fortes, bah, parfois, il y a des distorsions aussi. Et donc, il y a ce phénomène de déception sur les approches scientifiques qui viennent alimenter le débat en disant mais finalement toute cette recherche, toutes ces neurosciences, ça sert à rien, ça soigne pas les gens. On entend souvent ça, on dit oui mais c'est bien gentil mais votre recherche là elle aide pas les gens. Et ça renvoie à la question de la finalité de la recherche. C'est-à-dire à quoi ça sert de faire de la recherche, hein, de la recherche en sciences biologiques, en sciences médicales et comment ça marche la recherche, hein, à quoi ça répond, etc. Et donc le risque, c'est de tomber dans un nihilisme, hein, finalement, où on dirait, bah, ce qui est important, c'est des grandes théories, mais faire de la recherche, ça sert à rien, etc. Et ça, moi, je me mettrais vraiment en porte-à-faux vis-à-vis de cette approche-là. Parce que même si à un moment donné un résultat n'a pas d'impact, en fait toute cette énergie, tous ces moyens aussi, hein, qui sont parfois critiqués, hein, tous ces moyens mis dans la recherche en neurobiologie, en neurosciences, ils vont avoir des impacts sociétaux et médicaux, mais on n'en est pas, ils sont pas forcément déterminés, hein. La recherche rigoureuse, elle fait des hypothèses, ces hypothèses, elles sont validées. Il n'y a aucun problème à ce que plus tard, on me dit, bah non, finalement, cette hypothèse est fausse. Enfin, c'est l'histoire de la science, hein, c'est comme ça. Et c'est sûrement parce que c'est une bonne science qu'elle est falsifiable. Mais il faut continuer. Et ce que montre l'histoire de la psychiatrie, pour revenir spécifiquement à la psychiatrie, c'est que parfois, des hypothèses assez fausses, mal ficelées, une recherche qui, finalement, si on s'en était tenu à ce propre résultat, aurait débouché sur absolument rien, a permis de faire émerger deux genres de choses, soit des progrès significatifs en termes de thérapeutique ou de diagnostic, soit des idées, hein, c'est-à-dire des façons de voir. Et ça amène à un troisième point qui est ben, c'est quand même beaucoup plus stigmatisé, la question de la santé mentale et de souffrir d'un trouble psychiatrique, c'est beaucoup plus stigmatisé que de souffrir d'une pathologie d'une autre nature. Et je crois aussi que la recherche, parce qu'elle peut apporter comme idée, comme concept, comme hypothèse, va permettre, dans certaines circonstances et puis pour certaines personnes, de changer des visions. Ben, je vais prendre un exemple, et encore une fois, tout en disant que ça va dépendre de contexte et de personnes. Quand on a un enfant qui a des difficultés de développement, des retards dans certaines acquisitions, des particularités, on va dire, dans son comportement, son expression ou son langage, pour certaines personnes, en tout cas, le fait de savoir qu'il est possible qu'il s'agisse d'une origine génétique, que, en fait, y a pas, absolument pas de, ou peu de déterminants, en tout cas, éducatifs et familiaux, mais qu'en fait, il y a là-dessous peut-être une maladie rare, bah, pour certaines personnes, ça va être important que cette hypothèse, elle existe, qu'elle soit possible et plausible, même si elle est fausse. Hein, parce que, en fait, au fond, ça permet de dire, bah, il y a quand même une hypothèse, il y a une possibilité que ce soit ça. Et j'ai bien dit que c'est toujours très relatif, parce que vous avez des réseaux de personnes qui vont être rassurées par cette idée-là, vont trouver que c'est déculpabilisant, mais d'autres personnes, je le veux bien le croire, qui pourraient, au contraire, être très mal à l'aise avec cette hypothèse et dire, mais c'est très culpabilisant, c'est réifiant, etc. Moi, en tant que parent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a mal fait parce que c'est inscrit dans les gènes?
Ce que vous évoquez là, on l'a vu avec même une certaine violence dans les débats autour de l'autisme, avec des positions très radicales, quasiment idéologiques de part et d'autre, anti ceci ou anti cela.
Oui, complètement. Hein. On est dans une période et les derniers mois l'illustrent vraiment très fortement et peut-être plus qu'à d'autres périodes et d'autres époques. On voit vraiment des affrontements idéologiques qui sont extrêmement tristes en fait hein, quand on est un scientifique et un médecin parce que on sait qu'à la fin tout le monde est perdant et surtout les familles et les patients. Alors que y a pas plus personnalisé et au cas par cas que la question de la psychiatrie et de la recherche en tant que telle. Hein. C'est-à-dire que le débat idéologique en général, il fait mal à la recherche, il fait mal aux soins et par voie de conséquence, il fait mal aux usagers, aux familles. Et donc on le voit. Alors on l'a vu pour l'autisme. Vous parlez effectivement hein, avec des prises de position extrêmement dures, des débats extrêmement violents souvent par presse interposée et des choses qui sont vraiment regrettables à mon avis. Et on le voit aussi dans des tensions qui existent entre bah, des réseaux comme la Fondation Fondamentale par exemple qui anime des réseaux de centres de recours et la psychiatrie, un certain nombre de psychiatres publics et de syndicats de psychiatrie publique qui disent on enlève des moyens à la psychiatrie publique pour alimenter des réseaux d'expertise qui ne font pas du soin et ne font que des diagnostics. Et comme s'il fallait opposer en quelque sorte le terrain de tous les jours, hein, le soin de tous les jours et les soins de recours. Et vous avez eu un débat parlementaire même, hein, puisque ça s'est situé même dans la question de l'inscription dans la loi, où on a eu des oppositions assez fortes entre l'idée qu'il faudrait avoir des centres de recours pour aider au diagnostic, donc des centres spécialisés, ou pas. Et est-ce qu'il fallait inscrire ces centres spécialisés dans la loi? Et moi, je trouve que c'est très regrettable ce débat parce que, en fait, ce débat, il ne se pose pas dans les autres disciplines médicales. Vous avez à Montpellier, par exemple, un centre de recours pour la maladie de Parkinson et les troubles apparentés. Vous avez pour la sclérose en plaques. Vous avez pour l'endométriose ou d'autres troubles gynécologiques, etc. C'est le principe même de l'organisation des soins aujourd'hui en France où vous avez un étagement de l'offre qui va des soins primaires avec le travail extrêmement important des médecins généralistes, des sages-femmes, des acteurs du terrain de première ligne, des soins de deuxième ligne que sont souvent les spécialistes de terrain, hein, que ce soit dans la pratique libérale de la médecine ou dans les hôpitaux, et puis des centres de recours. Et toute la médecine française, mais je dirais même occidentale, hein, est organisée sur ce principe-là. Et en fait, on n'arrive pas à transformer l'organisation de la psychiatrie pour des raisons d'opposition qui se nourrissent en fait de problèmes idéologiques, hein, c'est-à-dire ça ne sert à rien, on dépense de l'argent pour rien et on s'invective en termes de questions d'efficacité et finalement, in fine, presque de modèles théoriques de l'humain, hein, c'est-à-dire on taxe les experts de neurobiologistes de droite et les défenseurs du CMP de gauchistes anarchistes, quoi. Hein, vous voyez,
Oui.
et
Non,
ça
bah,
se radicalise très fortement. Hein.
oui, non, puisque vous dites là, on le voit par exemple autour des débats qu'il y a régulièrement autour du DSM, donc le manuel de psychiatrie américain, auquel certains reprochent un lien avec des laboratoires pharmaceutiques beaucoup trop forts, et puis d'inventer quasiment des pathologies pour vendre des médicaments. Alors, c'est peut-être caricatural, n'empêche que ce débat a bien lieu.
Oui, le débat a lieu et il n'est pas infondé dans le sens où on est dans un système, c'est un auteur qui s'appelle Jana King qui a théorisé ça, hein, on est dans un système extrêmement interactif. Et c'est pas d'ailleurs l'apanage de la psychiatrie, hein, mais en gros, une pathologie psychiatrique, elle va dépendre d'un certain nombre d'éléments pour être reconnue et exister du coup. Elle dépend de ses manifestations propres, mais les manifestations propres, elles sont soumises au regard du clinicien, mais aussi au regard de la personne de la rue. On ne peut voir que quelque chose qu'on détermine. Hein, et vous avez un phénomène de miroir comme ça, qui fait que vous ne pouvez faire exister une maladie que si vous avez une théorie qui convient à l'existence de cette propre maladie. Et l'histoire de la médecine est caractérisé par ce phénomène-là. On peut reprendre l'exemple de l'endométriose, hein, où on voit bien à quel point elle est invisibilisée dans des modèles particuliers de la question du rapport entre la femme et la douleur, et où finalement c'est un long chemin qui est encore pas terminé, hein, sur la question de la caractérisation, l'essentialisation de la maladie qui n'a rien à voir avec des éléments voilà, purement psychologiques, par exemple.
Oui, alors en même temps, il me semble, dans tout ce que vous dites, c'est que dans le champ pour l'endométriose, on a repéré, enfin, pu nommer plus clairement des choses qui étaient un peu dans le flou. J'ai l'impression que dans la psychiatrie, parfois, ça va dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait des pathologies qui étaient peut-être mal définies, mais définies précisément. Et puis aujourd'hui, ben, on a des TDAH, on a des TSA, voilà, on a donc un trouble d'hyperactivité, trouble du spectre autistique. On a l'impression d'avoir des définitions de plus en plus larges, de plus en plus fourre-tout.
Oui, alors c'est une réalité, c'est que pour l'instant on est, enfin pour l'instant et peut-être de façon définitive, hein, on est dans une approche qu'on va appeler syndromique, c'est-à-dire que quand on parle de la dépression, on parle d'un certain nombre de phénomènes qui sont probablement très hétérogènes. Et c'est vrai si on va parler de la schizophrénie, un peu moins vrai si on parle de la bipolarité, mais on est dans une approche syndromique, c'est-à-dire en gros, on en est à peu près au niveau qui viendrait de dire, qui l'équivalence serait de dire un syndrome grippal. Vous avez une dépression, c'est comme avoir un syndrome grippal. Le syndrome grippal n'est pas homothétique d'une cause unique qui est la grippe, quoi. Ça peut être plein de choses, et parfois même, ça n'est pas justement ni infectieux ni viral spécifiquement. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette question un peu très syndromique, très globale, et en même temps. Sur cette base-là, beaucoup de recherches aujourd'hui visent à stratifier, c'est-à-dire à organiser au sein de ces grands clusters de troubles, ben justement ce qu'on va appeler des biotypes, c'est-à-dire des choses qui, des catégories à l'intérieur de cet ensemble syndromique qui ont des réalités plus homogènes, des phénomènes qui se ressemblent les uns avec les autres, beaucoup plus, sur la base à la fois de symptômes cliniques, d'évolution, mais aussi de pathologies, enfin de signaux non psychiatriques, non psychiques, que vont être par exemple la présence d'un syndrome métabolique ou quelque chose comme ça. Et donc, oui, je suis d'accord qu'on est traversé par à la fois des formes un peu de généralisation et aussi, mais en même temps, des questions de stratification. Alors, cela dit, il y a un point important qu'il faut évoquer, parce que souvent on va discuter de la face sombre qui serait de dire les diagnostics changent, c'est pas clair, leur affaire, les témoignages, hein, qu'on connaît bien, évidemment, qui disent ben, moi, pendant 10 ans, on m'a dit ça, puis on m'a dit ça, puis on m'a dit ça, les phénomènes tiroirs, hein, où on enchaîne les choses, ou alors on cumule un nombre de diagnostics ahurissants, en disant, mais finalement, on ne sait pas quel est le problème. Mais je pense qu'il faut le mettre en miroir d'autres choses, qui est que certes, il y a cette complexité, cette réalité, hein, de l'errance diagnostique, il y a même une crise dans la question du diagnostic, hein, mais en même temps, on a aussi deux choses. Une chose très positive, c'est que pour un certain nombre de diagnostics, on a quand même des capacités thérapeutiques extraordinaires, et ça, on le dit trop peu souvent. On a des outils thérapeutiques qui peuvent être extrêmement puissants et plus puissants que dans d'autres pathologies non psychiatriques. Si je parle de la bipolarité, par exemple, c'est vrai qu'une fois que le diagnostic est clairement posé, La prescription d'un traitement comme le lithium est extrêmement puissant sur la maladie, au point que vous pourriez recueillir des témoignages. Alors, on entend moins souvent ces témoignages-là, malheureusement, de personnes traitées par lithium qui disent, mais moi, ma vie a changé et c'est hors de question que on vienne remettre en cause et ce diagnostic et ce traitement. Et moi, j'en vois tous les jours des patients qui témoignent de cette efficacité-là. Donc, vous voyez, ça fait sens. Tout d'un coup, vous dites, oui, d'accord, il y a une crise du diagnostic, mais en fait, quand on a le bon diagnostic et le bon traitement, on a une capacité à agir qui est quand même assez extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment un point très positif malgré cette difficulté à aller au diagnostic. Et l'autre aspect qui est malheureux par contre, mais qui est très très important, c'est aussi quand on analyse les parcours des patients et leur carrière en fait en quelque sorte, où on voit que ben, le diagnostic, c'est important. Et que malheureusement, l'absence de diagnostic, l'errance diagnostique, elle est pourvoyeuse de catastrophes, en fait. Et donc, ça n'est pas parce que le diagnostic n'est pas parfait ou n'est pas extrêmement solide qu'il n'est pas utile. Hein, vous voyez, cette espèce de doublon où parfois, là aussi, on pourrait radicaliser la question en disant, ben, vu que c'est pas sûr à 100%, je n'utilise pas la démarche hypothético-déductive et diagnostique. Et donc, je laisse dans un flou un peu général et transnosographique les situations cliniques en disant bah, ça ou autre chose, c'est pareil. Et on l'a connu, ça, hein, on l'a connu, et on le voit encore dans certains lieux d'hospitalisation où, en fait, on est de façon indifférente, voire même, j'ai des confrères qui peuvent dire bah, peu importe, c'est une schizophrénie, un trouble bipolaire, une dépression grave, c'est pas ça qui est important. C'est pas là où ça se situe le problème. Et ça, c'est extrêmement délétère parce que la réalité fait que, même si ce savoir est imparfait, il est capable de nous aider et d'aider la vie des gens très concrètement. Et donc, vous voyez, ce nihilisme qui pourrait presque dire, bah, puisqu'on ne sait pas grand-chose, on ne sait rien. Et après, on fait rien. Alors, hein, on reste dans une approche très vague. Et je crois que vous parliez des pathologies de l'enfance, hein, qui est pas du tout ma spécialité, mais je crois quand même que malgré tout, il y a des différences entre les différents phénomènes psychoéducatifs, les pathologies psychiatriques de l'enfant et les pathologies très graves de l'enfance, et que un certain degré de précision dans cette affaire-là est intéressant plutôt que de laisser les enfants et les familles dans un flou qui n'est absolument pas pourvoyeur d'amélioration en quelque sorte, quoi.
Bien, merci beaucoup, docteur Belzo. On a un peu dépassé, même largement, mais c'est passionnant. Et puis, ben, je propose à nos auditeurs de venir vous écouter le 4 mars au Café Philo qui se tiendra au Gazette Café. Et puis, ben, vous pourrez développer un peu plus amplement votre propos en débattant avec les co-intervenants.
Merci beaucoup pour
Merci beaucoup
l'invitation.
à vous.
Au revoir.